France Info. Bonsoir à tous. Il y a des débats qui sentent le soufre. Celui de ce soir va plutôt sentir la lacrymogène. L'actualité, ce sont effectivement ces violences qui se sont déroulées cet après-midi en marge des cortèges du 1er mai à Paris. Et on va en débattre ce soir avec des gens pour qui la révolution n'effraie pas forcément, a priori, que ce soit une révolution prolétarienne ou une révolution nationale. Jugez plutôt. Bonsoir Mathilde Panot.
Bonsoir.
Vous êtes députée La France Insoumise. Jordan Bardella, bonsoir à
bonsoir.
Vous. Vous êtes porte-parole du Front National, conseiller régional d'Île-de-France. Olivier D'Artigol, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole du Parti communiste. Florence Berthoud, c'est chez vous que les heures se sont en partie déroulées. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire du 5e arrondissement. Vous êtes également la présidente du groupe Les Républicains et Indépendants au Conseil de Paris. Et puis, au-dessus de la mêlée, un politologue d'élite pour nous aider à voir peut-être au-dessus des gaz lacrymogènes. Bonsoir Bruno Cotterêss.
Bonsoir.
Chercheur CNRS au CVPOF, enseignant à Sciences Po. Et c'est parti pour une heure de débat. Des heurts violents ont donc éclaté cet après-midi à Paris entre les forces de l'ordre et des individus encagoulés et masqués. Des voitures ont été brûlées, des vitrines défoncées. Je vous propose d'écouter d'abord Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui a affiché sa plus grande fermeté.
Celles et ceux qui pensent pouvoir mettre la violence dans notre pays seront poursuivis. Nous ne pouvons accepter qu'un certain nombre de personnes prônent des appels à la violence, à la casse. 200 personnes ont été appréhendées, elles seront poursuivies.
Voilà, Gérard Collomb, cet après-midi, fin d'après-midi à la préfecture de police de Paris. Dans la classe politique, les condamnations sont unanimes. Dans un communiqué, le Premier ministre condamne avec la plus grande fermeté ces violences en saluant le professionnalisme des forces de l'ordre. Marine Le Pen a dénoncé des milices d'extrême gauche. Puis il y a la réaction de Jean-Luc Mélenchon, peut-être un peu plus surprenante. Le leader de la France insoumise condamne lui aussi ces violences qui sont pour lui sans doute l'œuvre des bande d'extrême droite. L'extrême droite est à la manœuvre pour vous, Mathilde Panot ?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas des gens de notre camp qui font ce type de violence, que nous aussi, nous sommes effectivement dans le fait de dire qu'il faut les condamner extrêmement fermement, d'autant plus que c'est extrêmement regrettable puisque personne ne parle du coup des manifestations qui ont eu lieu partout dans le pays.
Alors, on va en parler ce soir.
La fête des travailleurs et des travailleuses, donc, qui est une journée historique de lutte sur les conditions de travail qui ont été faites dans les années précédentes. Donc je ne sais pas s'ils sont d'extrême droite. En tout cas, dans le pays, on voit que Gérard Collomb...
Votre leader, lui, pense que c'est l'extrême droite.
Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Lorsqu'on voit ce qui se passe, par exemple, à l'université de Montpellier, où on voit que des milices d'extrême droite poursuivent des étudiants pour les tabasser, comme ça s'est passé aussi à Lille, il y a quand même un retour de l'extrême droite avec une violence extrêmement forte. Et peut-être qu'on parlera de ce qui s'est passé au col de l'Échène, qui est extrêmement inquiétante et qui démontre une violence et une xénophobie
extrêmement forte. Les Black Blocs, c'est pas les gens de gauche.
Ils sont pas de mon camp, j'ai dit.
Bon,
mais non.
Bon, Jordan Bardella, Front National, vous étiez à la manœuvre cet après-midi?
Non, pas du tout. Et puis évidemment, les Français le savent bien, toujours les mêmes, hein, je dirais. Depuis maintenant plusieurs années, on voit à chaque événement des milices d'extrême gauche agir dans l'impunité la plus totale. Je crois qu'il faut aujourd'hui frapper fort sur ces agitateurs professionnels qui profitent du moindre événement pour casser le mobilier urbain, pour s'en prendre à nos forces de l'ordre. On a vu d'ailleurs ces groupuscules antifa, groupuscules qui étaient quand même 1200 dans les rues de la capitale, faire un certain nombre de messages d'appels et de ralliements sur leur compte Facebook avec des messages anti-flics,
hein, la même chose que d'habitude. Donc toute violence est condamnable.
Donc évidemment
même
que toute violence.
Même celle qui fait la chasse aux migrants.
Mais la différence, Madame le député, c'est que l'action qui a été menée par Génération Identité. Alors je ne suis pas leur avocat, mais elle était légale et d'ailleurs le préfet l'a reconnue. En l'occurrence, quand on s'en prend aux forces de l'ordre, qu'on casse du mobilier urbain. Comme l'ont fait ces milices antifa, qui font cela dans l'impunité la plus totale, eh bien cela est évidemment condamnable.
Mais si on pose la question, c'est qu'il y a aussi une tradition de de violence à l'extrême droite.
Non, il n'y a aucune
jusqu'aux ligues.
Oui, il y a 50 ans, mais en l'occurrence maintenant, oui, voilà, il y a un certain nombre d'années, mais en l'occurrence, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, ce sont ces mêmes milices d'extrême gauche qui sont connues par nos services de renseignement et qui profitent du moindre événement pour casser, pour injurier, pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Et le pouvoir est complètement largué. Enfin, je veux dire, pardon, mais comment est-ce que ces individus se sont retrouvés en tête de cortège? Comment est-ce que la police a pu les regarder?
On va y revenir et je vous donnerai la parole.
La police peut systématiquement
je voudrais poursuivre ce tour de table. Olivier Dartigolle, vous êtes de quel côté ce soir? Du côté des Black Blocs ou du côté de la police?
Je suis du côté de celles et ceux qui sont très en colère ce soir parce qu'on voudrait salir le mouvement social, les luttes. Dans ce pays, on ne s'y prendrait pas autrement. D'abord, ces gens, il faut être factuel.
Alors, ce sont qui, ces gens ?
Ils sont parfaitement identifiés, repérés. Ce sont des Black Blocs, comme vous l'avez dit. Ce sont des gens qui pourrissent des rassemblements qui sont absolument sur des rassemblements pacifistes, qui sont sur des revendications sociales. Nos services d'ordre, d'ailleurs, ceux du Parti communiste français, de la CGT, mais aussi de la France insoumise, ont souvent maille à partir de manière très dure, très frontale avec ces groupes, qui sont des professionnels du chaos et de la violence. Je pose la question ce soir. On voudrait salir le mouvement social et les beaux défilés du 1er mai, on s'y prendrait pas autrement. Pourquoi alors, comme vous venez de le dire, et c'est juste, pourquoi alors que les rendez-vous étaient sur les pages Facebook, sur les comptes, dans les réseaux sociaux, pourquoi alors que sur d'autres mobilisations, manifestations, ces groupes ont été neutralisés, ont été empêchés de nuire par des filtrages, par des barrières, par des repérages, par le fait que les sacs à dos sont pris, etc. Les services d'ordre sont parfaitement en capacité de l'organiser. Des responsables syndicaux de premier niveau de la police ce soir disent qu'ils n'ont pas eu ces injonctions, qu'ils n'ont pas eu ce commandement de les stopper. On voudrait créer un tel événement, on ne se prendrait pas autrement. Il faut une commission parlementaire pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris et que les responsabilités soient précisées. Et le ministre de l'Intérieur a aujourd'hui, je pense, est dans une situation très difficile concernant ce qui vient de se passer.
Alors, que s'est-il passé cet après-midi
à Paris ? Été laissés.
On en débat dans Tout est politique, mais il est 21h10 et l'info, c'est avec Marie Roarche.
Les défilés du 1er mai ont réuni 143 500 manifestants en France, 210 000 selon la CGT, seul syndicat qui appelait à manifester pour la défense des droits des travailleurs. La CFDT et FO notamment ne se sont pas joints à son appel. Les quelques 240 cortèges du jour sont totalement éclipsés par les violences qui ont éclaté en marge du défilé parisien. Des individus cagoulés et vêtus de noir ont incendié des voitures, saccagé un McDonald's et des abribus avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. 200 personnes ont été interpellées. Elles seront poursuivies, martèle ce soir Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Des proches, des élus, beaucoup d'anonymes derrière la banderole pour Angélique cet après-midi à Vambrechy. 3000 personnes environ ont participé à la marche blanche en mémoire de l'adolescente de 13 ans dont le corps a été retrouvé ce week-end. Son meurtrier présumé a été incarcéré la nuit dernière et ses proches disent désormais vivre un cauchemar. Sa compagne, ses deux enfants sont menacés, insultés. La maison du couple a été vandalisé, une plainte a été déposée. En Arménie, le leader de l'opposition appelle au blocage total des routes, des trains, des aéroports. Nicole Pachignan n'a pas réussi à se faire élire Premier ministre par intérim. Le Parlement a rejeté sa candidature. Il incite les dizaines de milliers de ses partisans réunis ce soir à Erevan, la capitale, à la désobéissance civile. Et puis en football, Real Madrid contre Bayern Munich, c'est l'affiche en ce moment de la première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Avantage aux Madrilènes, vainqueur 2-1 à l'aller en Allemagne.
France Info.
21h-22h, Tout est politique, Olivier Delagarde.
Et l'autre affiche de la soirée, c'est ici, sur le débat de Tout est politique, où l'on débat de ce qui s'est déroulé cet après-midi, ces violences en marge des défilés du 1er mai. Florence Berthoud, vous êtes maire du 5e arrondissement. Certains rêvaient d'un retour de mai 68, 50 ans après, c'est pile l'anniversaire. Le voilà finalement.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, je suis assez triste de voir sur ce plateau l'extrême droite qui renvoie la responsabilité à l'extrême gauche et vice-versa,
des débordements.
Des débordements. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une manifestation du 1er mai qui est une manifestation pacifique. on est d'accord ou pas avec les revendications qui sont portées, mais le droit de manifester, c'est une liberté fondamentale dans notre pays. Et cette liberté, elle est aujourd'hui remise en question, indirectement, par l'instrumentalisation que des individus d'une violence extrême font de manière systématique. À chaque fois, on entend la même musique, des politiques, vous me direz, je suis une élue, mais de politiques qui disent « Ah mais c'est affreux, plus jamais ça ». Ce sont des hooligans, les hooligans des stades, on les a interdits dans les stades. Donc il faut que les hooligans des manifestations...
Ce ne sont pas des militants politiques pour
ils
vous
ils soient interdits. Si vous voulez, le sujet, pardonnez-moi, n'est pas là.
Ah.
Attendez, le sujet, c'est un sujet de violence politique ou pas. Ceux qui cassent nuisent à la démocratie. Voilà. Il y a aujourd'hui trois grands perdants. Il y a évidemment ceux qui ont subi des dégradations, parce qu'on est en train de faire l'inventaire. Je peux vous dire que on a été incapable de me le donner tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau. Apparemment, il est beaucoup plus important que ce qu'on indique aujourd'hui sur les antennes. Il y a quand même les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont attendu un certain temps, comme le confirmait tout à l'heure le secrétaire général de l'UNSA, police, CRS, un certain temps avant qu'on leur donne des instructions précises. En l'espèce, essayer de venir à bout de ces casseurs, car ce sont des casseurs.
Bon,
et puis il y a la démocratie, parce que à chaque fois que la violence s'insinue dans les revendications, encore une fois, les manifestations, ce sont un droit.
La démocratie est victime. Bruno Cotterêts.
Donc il faut y apporter des solutions, surtout très concrètes.
Est-ce que la violence est forcément illégitime en politique?
Beau sujet pour étudiants de Sciences Po.
Vous avez trois
très
heures.
Beau sujet. Je dois dire que, pour synthétiser, je dirais que je me sens assez proche de ce que Madame la maire vient de dire. Je trouve qu'au fond, il y a bien sûr toujours un renvoi de responsabilité. On peut pas éviter. C'est le débat politique et d'une certaine manière, c'est normal qu'on se renvoie les responsabilités. Il y aura bien sûr au lendemain des questions à se poser sur le contexte exact d'intervention des forces de l'ordre. Donc toutes ces questions vont se poser. Je ne doute pas que les parlementaires vont les poser. Mais je ne suis pas sûr qu'il faut rejouer un match des années 70, tout le monde soupçonnait les casseurs d'être infiltrés par les renseignements généraux.
Ça existait,
mais... Je veux dire, ce débat, ce ne sont pas
des militants politiques.
Par contre, pour finir de répondre à votre question, je pense qu'effectivement, ce qui est terrible aujourd'hui, ce qui est vraiment très mauvais, même du point de vue du débat démocratique, c'est que ça a totalement vampirisé la manifestation. On n'a parlé que de ça. Il est normal.
C'était l'objectif, il est atteint.
Il est normal que les médias parlent de ça, bien sûr, évidemment. Mais il y a quand même un déséquilibre entre. On n'a quasiment pas parlé, au fond, de l'ampleur de la manifestation.
Je voudrais me tourner vers la gauche, qui est ici représentée par Mathilde Panot et Olivier d'Artigol. Est-ce que ces violences sont vraiment totalement contre-productives? Elles montrent qu'il y a quand même une colère sourde qui peut se transformer donc en violence d'une partie de la population.
Mathilde, je compléterai, vas-y.
Non, mais la première chose, c'est de dire que je pense qu'il est extrêmement préoccupant dans notre pays qu'aujourd'hui, autant de jeunes, parce qu'ils n'avaient pas autant avant, pensent que c'est par la violence qu'on se fera écouter. Et je pense que ça vient aussi de toute la musique qui a été faite sur « on n'entend plus les grèves »,« on n'entend plus », et aussi de toute une politique de division de la société qui a été faite. Mais je tiens à dire quand même quelque chose qui est important. C'est que l'État doit garantir la sécurité des manifestations, qui est un droit, effectivement, et donc doit garantir là-dessus. Et là-dessus, on a quand même en France un énorme retard, parce que des pays comme les pays scandinaves, l'Allemagne, qui ont aussi des mouvements violents comme nous avons en France, n'ont pas de gaz lacrymo qui se fait de manière aveugle sur des foules, n'ont pas de matraquage dans le dos, n'ont pas... Attendez, je termine ça parce que c'est important. Parce que la France, notamment, ne participe pas à une commission qui est au niveau européen avec 12 pays qui regroupent des policiers et des chercheurs sur les gestions de foules pacifiques, et aussi parce que lors de la commission parlementaire, parce qu'il y en a déjà eu une en 2015 sur le maintien de l'ordre, eh ben les syndicats policiers n'ont pas pu être auditionnés et donc n'ont pas participé à cette réflexion autour de quelle arme on interdit, et ça c'est important en fait parce que ça c'est la responsabilité de l'État d'assurer que des manifestations puissent se passer pacifiquement et sereinement.
Je pense qu'il y a très rapidement deux choses. D'abord, éviter tout amalgame entre ces groupes de casseurs, ces petites frappes cagoulées qui se comportent évidemment d'une manière inadmissible, qui doivent être, d'après moi, mis hors d'état de nuire. Il peut y avoir aussi des dissolutions, il peut y avoir aussi des réponses plus fortes. Éviter tout amalgame. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes venus... Je vais vous dire un truc. On est venus armés. C'est vrai. Dont acte, on est venus armés. Armés d'un brin de muguet, armés de nos familles, de banderoles, armés de drapeaux. C'est une fête populaire.
Le Parti communiste a aussi fait le coup de poing dans l'histoire.
Mais ce que je veux vous dire, et ça, vous, d'après moi, vous pouvez peut-être accéder à cette idée, on n'a rien à voir avec ça. D'accord ? Strictement rien à voir. Et deuxième chose, je repose la question, elle n'a pas été reprise au vol. Nous pouvons parfaitement, en France aujourd'hui, avec la puissance régalienne, créer les conditions en amont de la manifestation que ça ne se passe absolument pas ainsi. Il y a donc des responsabilités politiques qui ont fait qu'à un moment donné, on ouvre les vannes, on ne filtre pas, on laisse ces casseurs arriver dans le périmètre de manifestation pour donner ce résultat. Et donc, je le redis, Gérard Collomb a la responsabilité du désordre aujourd'hui des dégâts effectués. Il y a des questions politiques posées ce soir.
Jordan Bardella.
Oui, pour revenir sur ce que vous avez dit, madame, c'est assez hallucinant, mais l'extrême-gauche sont systématiquement obligés d'injurier nos forces de l'ordre dès qu'il y a une manifestation de ce type. La réalité, c'est que cette manifestation n'est pas inédite.
Vous l'avez dit juste avant, en mettant en cause le travail
de nos forces de l'ordre.
Absolument
en parlant de
fumigènes, pas, j'ai dit
etc.
qu'il y avait de la recherche et que dans d'autres pays, ça se passait autrement.
Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas inédit. Enfin, je veux dire, les mêmes personnes, ces mêmes voyous d'extrême-gauche qui saccagent nos centres-villes régulièrement, ce sont les mêmes qui sévissent à Notre-Dame-des-Landes, ce sont les mêmes qui, dans nos facs, s'en prennent à nos forces de l'ordre, déploient des slogans anti-flics. Donc, je veux dire, à un moment donné, il va falloir agir contre ces milices d'extrême-gauche et il va falloir organiser, par la loi et par un encadrement juridique, la dissolution de ces milices d'extrême-gauche pour les mettre hors d'état de nuire.
Allez, on parle pas tous ensemble, s'il vous plaît. Il est 21h20 sur France Info. Marie Roir, je viens de nous rejoindre pour l'info et on se retrouve juste après.
La préfecture de police de Paris craignait des débordements en marge du défilé du 1er mai. Bien, la situation a complètement dégénéré autour de la gare d'Austerlitz ou de l'avenue Le Drureau-Hollin. McDonald's ravagé, magasins endommagés, véhicules incendiés par des centaines de casseurs vêtus de noir, visages dissimulés. 200 personnes ont été interpellées. Au rang des responsabilités, le gouvernement, selon les principaux leaders de l'opposition. Marine Le Pen évoque la mansuétude de l'exécutif à l'égard de milices d'extrême gauche qui devraient être dissoutes depuis longtemps. Gilles La très porte-parole des Républicains assure sur France Info que son parti va demander des comptes au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, dénonce d'insupportables violences. Loin, très loin de la capitale, Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui une visite de 3 jours en Australie. Le chef de l'État a déclaré vouloir franchir un nouveau cap dans les relations franco-australiennes. Demain, il doit notamment signer plusieurs accords de coopération dans les domaines de la santé, du spatial ou de la cybersécurité. Plus de 60 morts dans un double attentat suicide aujourd'hui à Moubi, dans le nord-est du Nigeria, une ville régulièrement ciblée par les attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Un premier kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée, le second quelques instants plus tard dans un marché proche, pendant que les fidèles prenaient la fuite. Pas moins de 14 livres, un peu plus de 15 euros, la bouteille de whisky. L'Écosse instaure un prix minimum pour l'alcool, c'est une première mondiale, saluée comme un grand progrès en matière de santé publique et de lutte contre l'alcoolisme.
France Info. 21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
Et on débat ce soir de ces violences qui ont émaillé les défilés du 1er mai à Paris. Et je voudrais qu'on aborde un volet encore plus politique, même si on y est depuis le début de cette émission. Je voudrais qu'on parle de l'attitude d'Emmanuel Macron. Le président de la République, vous le savez, est en Australie, en voyage officiel. Et répondant à ceux qui s'étonnaient de cet éloignement du territoire national pour un 1er mai, il a répondu ceci.
Vous savez, les voyages, ils sont programmés longtemps avant et je m'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris, comme ailleurs. Et vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision?
Oui, il aurait pu regarder France Info, par exemple, petite phrase. Donc, prononcée évidemment avant les heures de cet après-midi. Bon. Ça résonne pas un peu bizarrement, Florence Berthou?
Oui, ça résonne bizarrement, mais franchement, j'ai pas envie de polémiquer sur cette phrase qui est, je pense qu'il faut être aussi honnête intellectuellement, elle est sortie avant les manifestations. Donc j'espère que le président de la République va surtout tirer maintenant toutes les conséquences, même s'il n'est pas en France, de ce qui s'est passé. Et qu'enfin, on aborde la question de ces hooligans. Vous disiez, qui sont-ils tout à l'heure? Ce sont des professionnels du désordre. Arrêtez extrême droite et extrême gauche de vous renvoyer la balle. Ce sont des professionnels du désordre. Ce sont les mêmes qui sont à Notre-Dame-de-Lande, qui se sont infiltrés à Tolbiac. Ils ont des ramifications européennes. Ces gens-là correspondent en message crypté. C'est dire combien ils sont organisés.
Olivier d'Artigol, veut dire que vous faites de l'amalgame?
Non, nous avons des messageries ils utilisent la messagerie sécurisée. Une partie d'entre eux. Donc, qu'au moins ce cœur du hooliganisme, encore une fois, qui veut mettre à bas la société et la démocratie, qu'on prenne toute la mesure, évidemment, du phénomène. Je crois qu'effectivement, il faut une commission d'enquête. Il faut une commission d'enquête pour faire la lumière et aussi et surtout pour tirer des conséquences concrètes de ce qui vient d'arriver là, mais ce qui est arrivé il y a déjà quelques mois. Car le boulevard de l'hôpital, le boulevard Port-Royal, ça n'est pas la première fois qu'il est mis à sac. Deux fois en deux ans, on a eu une crèche, le rez-de-chaussée d'une crèche qui a été saccagée, vandalisée lors d'une manifestation il y a un an. Donc ça ne peut plus durer. Il faut évidemment que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Je peux vous rejoindre sur le diagnostic si vous aviez
Olivier d'Artigol,
l'idée de le compléter en disant qu'il y a des étudiants qui sont très préoccupés par la sélection à la fac, par Parcoursup, par le manque de moyens, qui se sont organisés, qui mènent un beau mouvement qui n'est pas terminé, qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes des personnes totalement pacifiques qui réfléchissent à l'avenir de cette terre. Donc je pense qu'il faut, parler dans de tels moments positivement de ceux qui luttent sur de vrais sujets armes démocratiques.
Oui, mais il ne faut pas parler positivement.
Sinon, vous nourrissez l'amalgame.
Non, il ne faut pas parler positivement de ceux qui n'ont pour seule arme que la violence.
Je ne le fais pas.
Ça n'est pas possible.
Bruno Cotresse, est-ce qu'un événement de ce type profite ou dessert l'exécutif?
Match nul, pour moi. Match nul, c'est-à-dire qu'au fond, les images que nous avons vues aujourd'hui, ce n'est pas forcément des images très bonnes non plus pour le pouvoir exécutif. Ce sont des images qui n'ont pas passé...
Ça donne une impression de
certains laxismes.
Elles
n'ont pas passé en boucle qu'en France. Elles passent en boucle dans le monde entier, bien sûr. Et au moment où Emmanuel Macron dit « la France est de retour, la France est derrière moi pour réformer, etc. », c'est sûr que ce n'est pas très très bon. Dans le même temps, on voit que pour Emmanuel Macron, qui a inscrit son rôle présidentiel dans l'autorité, le vertical, le rôle régalien, le président de la République qui affirme son autorité. Donc ça s'équilibre sans aucun doute. C'est pour ça que je dis match nul. Mais c'est vrai que globalement, ça ajoute une tonalité un peu plus difficile à un climat de tension sociale qui existe déjà. Donc au fond, l'idée que la France est en train d'être réformée sans que ça crée de crispation, etc., c'est sûr qu'aujourd'hui, ça en a pris un petit coup, cette idée, même si évidemment tout le monde fait bien la différence entre...
Match nul, dites-vous, pour l'exécutif, pour la gauche, c'est une très mauvaise affaire ce qui s'est passé?
C'est sûr qu'aujourd'hui, l'objectif pour les syndicats et pour la gauche qui est dans une semaine qui est très importante avec plusieurs rendez-vous, c'est sûr que l'objectif de communiquer, de faire savoir et de faire connaître ces slogans, ces thèmes, etc., aujourd'hui, ça a été totalement occulté.
L'émission de ce soir en est une illustration.
De ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de perdants aujourd'hui.
Je crois que c'est une des images de chaos total, c'est-à-dire des images qu'on renvoie à la fois au reste du pays et à la fois au monde, d'un gouvernement incapable de faire cesser ces violences. Et encore une fois, j'en reviens même, mais ce ne sont pas les premières. Enfin, je veux dire, combien de fois on voit ce type de scène se multiplier? On l'a vu pendant la présidentielle à Nantes, à Lyon, on le voit régulièrement dans les rues de Paris. Et je crois que tout cela insupporte les Français. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un commerçant qui était en larmes tout à l'heure parce que sa vitrine a été ravagée sur une chaîne d'info continue. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, je pense que les Français ont le sentiment d'être abandonnés par l'État. Et Emmanuel Macron parle beaucoup, mais encore une fois, agit très peu. Et on attend sur ce sujet autre chose que des tweets du ministre de l'Intérieur, qu'il fasse cesser ces violences, qu'il mette hors d'état de nuire ces fauteurs de troubles professionnels et qu'il organise par la loi, dans un encadrement juridique, la dissolution de ces groupuscules antifa.
Avec génération identitaire dedans, bien sûr.
La différence, c'est que génération, non, la l'action de génération identitaire, elle n'a rien d'illégal.
C'est juste proprement inhumain.
Elle n'a rien d'illégal, ne vous en déplaise.
Non, mais il y a quand même un truc, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ça fasse mal à la gauche. Ce n'est pas que la gauche qui va dans les manifestations aujourd'hui, parce que tout le monde a des raisons aujourd'hui d'être en colère.
C'est une excellente transition que vous nous proposez,
contre,
Mathilde Panot,
Emmanuel Macron, parce que ça parce va être le thème de,
la deuxième partie de Tout est politique. On se retrouve dans quelques minutes, juste après l'info. Restez avec nous.
Vendredi 4 mai, à la Philharmonie de Paris. La mémoire de l'eau, le jeu des vagues, le bruit des tempêtes. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Vassili Petrenko, nous offre un programme inspiré par la mer. Le poème de l'amour et de la mer de Chausson, Toward the Sea de Takemitsu et La Petite Sirène de Zelminski. Le 4 mai, à la Philharmonie de Paris, avec la soprano Anna Caterina Antonacci. Réservation, maisondelaradio.fr.
Fierté, une série Arte réalisée par Philippe Faucon avec France Info. De la veille de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir à l'adoption du mariage pour tous, une fresque intime et familiale en 3 épisodes. Retour sur les combats pour les droits des minorités sexuelles en France à travers 3 destins d'hommes sur plusieurs générations. Fierté, le jeudi 3 mai à 20h50 sur Arte, en partenariat avec France Info.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Élodie Calac, Météo France.
Deux perturbations pour demain, toujours une sur la Corse avec des pluies parfois orageuses. Quelques averses déborderont vers PACA, vers les Alpes. À l'autre bout du pays, sur le nord-ouest, la seconde perturbation avec du vent sur les côtes, de la pluie sur la Bretagne et le Cotentin le matin, jusqu'à la Vendée, à la Normandie et au Pas-de-Calais l'après-midi. Entre les deux, du beau temps, un peu plus de nuages de la vallée du Rhône à l'Alsace. Ce sera le cas aussi de la côte aquitaine vers le centre, la région parisienne et le nord de la Seine l'après-midi, avec un peu de pluie en prime en fin de journée. Souvent 1 à 8 degrés le matin, l'après-midi 12 degrés à Deauville, 14 à Angers, 16 degrés à Paris, 18 à Agen, 20 degrés à Strasbourg, à Grenoble et jusqu'à 22 à Montpellier.
21h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info, c'est avec Frédéric Beniada.
On va tout de suite retourner à Madrid avec un match fou entre le Real et le Bayern pour une place en finale de la Ligue des Champions. Guillaume Batin, c'est chaud des deux côtés.
Ouais, c'est chaud des deux côtés avec deux bonnes équipes. Le Real Madrid qui a vu le Bayern ouvrir le score dès la troisième minute sur la première action des Rouges, les Bavarois. But signé Joshua Kimmich, le troisième but de l'Allemand depuis le début de la saison en Ligue des Champions sur le premier centre de Thomas Müller de la gauche vers la droite. Impossible pour Keylor Navas de rattraper cette balle, le gardien de but du Real. On a vu des Bavarois très offensifs dans les premières minutes et puis petit à petit, le Real Madrid a repris la possession de balle. Là, on est dans les dernières secondes de la première période. Une minute de temps additionnel. Il reste 15 secondes précisément. Et dès la 11e minute, 8 minutes seulement après l'ouverture du score des Bavarois, le Real Madrid a égalisé, évidemment sous les hurrahs des 80 000 spectateurs de Santiago Bernabéu. Un but venu du point de corner également. Un centre sur la tête dans la surface de réparation, sur la tête de l'attaquant français Karim Benzema. Très bon depuis le début de cette rencontre, très bon dans les placements, très intelligent. C'est lui qui a permis au Real Madrid d'égaliser. Si on fait la synthèse, l'addition des buts du match aller et pour l'instant de cette première période du match retour en demi-finale de la Ligue des Champions, eh bien c'est le Real Madrid qui serait qualifié si on en reste là avec cette image au ralenti qui montre la main dans la surface de réparation de Marcelo, le défenseur brésilien. Une main qui n'est pas sifflée. Et on va en terminer dans cette première période avec un centre, un corner plutôt de James Rodriguez dans la surface de réparation madrilène. L'arbitre turc va sans doute siffler la fin de cette première période. Voilà, c'est fait un partout dans cette première période entre le Real Madrid et le Bayern Munich.
Merci Guillaume. Scène de violence en plein Paris. La manifestation syndicale du 1er mai a dégénéré cet après-midi dans les rues de la capitale. Près de 1200 casseurs de la mouvance radicale des Black Blocs s'en sont pris à des magasins. Ils ont brisé des vitrines, incendié des véhicules, saccagé un restaurant McDo et une concession automobile, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. 200 casseurs militants d'extrême gauche ont été arrêtés. Des casseurs qui ont totalement phagocyté la mobilisation syndicale à tel point que les forces de l'ordre avaient demandé aux organisateurs de changer d'itinéraire. Pas de manifestation du 1er mai pour le Front National. Marine Le Pen avait aujourd'hui convié ses militants à Nice au Palais des Congrès. Le dernier hommage silencieux à la petite Angélique, violée puis étranglée par un voisin de la famille près de Lille. Une marche blanche et silencieuse a rassemblé cet après-midi plus de 3000 personnes avant Brochy dans le Nord. Certaines portaient des roses blanches, d'autres un t-shirt sur lequel avait été imprimé le portrait d'adolescente. Un ancien voisin de la famille, père de famille et prédateur sexuel, a été placé en détention hier, poursuivi pour séquestration, viol et meurtre. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue.
Le muguet communiste.
21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
Deuxième partie de Tout est politique avec Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, Jordan Bardella, porte-parole du Front National, Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti Communiste, Florence Berthoux, maire du 5e, présidente du groupe Les Républicains et indépendant au Conseil de Paris, et puis le politologue Bruno Cotresse. Alors, si vous nous rejoignez seulement, sachez que un gros sujet nous a préoccupés lors de la première partie, c'est ces violences en marge des cortèges parisiens du 1er mai. J'aimerais pourtant que l'on évoque ces défilés, maintenant, à Paris, les cortèges ont rassemblé 50 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police. Est-ce que les Black Blocs ont volé le 1er mai des syndicalistes, Mathilde Panot ?
Non, dans les médias, en tout cas, sur la manière dont c'est présenté, c'est extrêmement désolant. Mais je pense qu'il est important aussi de s'interroger sur pourquoi nous avons de plus en plus de personnes qui arrivent dans des luttes extrêmement radicalisées, voire qui utilisent la violence comme moyen politique. Et je pense que nous avons un problème aujourd'hui dans la société, et j'avertis le gouvernement là-dessus de manière extrêmement forte et préoccupée, qui est que nous avons une société qui est de plus en plus scindée, et que le gouvernement d'Emmanuel Macron continue à scinder de plus en plus, avec les petites phrases méprisantes qu'il nous sert à longueur de journée sur les riens, les extrêmes, les feignants, mais aussi sur, en fait, ce qu'il appelle les insiders et les outsiders. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Avoir un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire, et où, du coup, on pense que la seule manière de pouvoir se faire entendre, c'est d'utiliser cette violence, ce qui n'est pas du tout notre conception, nous, de faire la politique, dégoûter de plus en plus de gens de voter parce que, on ne respecte pas ses promesses de campagne, etc. Faire des choses dont on n'avait jamais parlé, les contrats aidés, la SNCF, etc. Tout ça, ça fait que de plus en plus de gens sont plongés dans la misère et décrochent. Et je pense que c'est très inquiétant. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je trouve ça très inquiétant, en fait. Et je trouve que avoir un ministre de l'Intérieur qui est plus prompt à mettre des gens 90 jours en centre de rétention qu'à assurer le fait que des manifestations puissent se passer convenablement et de manière en toute sécurité, c'est un énorme problème. Et donc, je disais, ce n'est pas seulement la gauche qui était dans la rue aujourd'hui, mais énormément de gens qui sont fédérés dans des colères, qui se retrouvent dans ces manifestations qui vont, puisqu'il va y avoir le 1er mai aujourd'hui, le 3 mai et le 5 mai, puis encore
Olivier d'Artigol, on parlait tout à l'heure du service d'ordre du Parti communiste, de la CGT. C'est la première fois que des groupuscules parviennent, non pas à s'infiltrer à l'intérieur des cortèges,
mais
se mettre devant le cortège.
Mais non, ça c'est déjà arrivé au moment de mobilisation contre la loi El Khomri. Il y a eu des accrochages très violents. J'ai eu des camarades du service d'ordre du Parti communiste français très amochés. Ça a été très rugueux. On a alerté, on est bien sûr en contact avec les organisations, avec la préfecture avant les mobilisations. On essaie de travailler en bonne intelligence. Et là, je pensais qu'on allait sur un autre sujet.
Oui,
parce
oui.
qu'il y avait par ailleurs, dans les cortèges, et en effet, là,
c'est Mathilde Panot,
je rejoins
Carmel,
ce que dit
Carmel
Mathilde. Ben non, en effet, c'est pas les images qu'on voit, mais vous auriez pu aussi filmer les cheminots en lutte, filmer les salariés des EHPAD, ceux des hôpitaux, les retraités qui vivent très douloureusement l'augmentation de la CSG, la fonction publique, mais aussi les salariés de Carrefour, toutes celles et ceux qui prennent
Dit en passant, 50 000 ou 20 000 selon... C'est relativement modeste pour un défilé de 1er mai.
Oui, mais méfiez-vous. D'abord, il y a près de 300 défilés dans le pays.
Oui,
je ne dis pas, bien sûr, nous aurions besoin d'une unité syndicale plus forte. c'est vrai. Je pense que la question de l'unité, qu'elle soit politique, syndicale, populaire, va être la grande question pour nous dans la période qui vient, pour permettre de comme on dit, faire converger, mais en tout cas additionner des forces pour véritablement arrêter Emmanuel Macron dans la politique qu'il mène, parce qu'elle est désastreuse, elle provoque des dégâts sociaux considérables et des souffrances. Donc c'était aussi ça au cœur, le cœur battant des défilés, c'est ça, vous voyez.
Vous parlez d'unité, les cortèges en ordre dispersé, et ces déclarations des responsables syndicaux également en ordre dispersé. Écoutez dans l'ordre les leaders de la CGT et de FO, Philippe Martinez sur BFM et Pascal Pavageau sur France Info.
Et malheureusement, pour l'instant, alors que ça se passe chez les cheminots, ça se passe dans beaucoup d'entreprises, au niveau national, nous n'arrivons pas à mettre de côté ce qui nous différencie. Et il y a des choses qui nous différencient, tout le monde le sait.
Cette histoire du 1er mai, chaque année, c'est la même chose. Encore une fois, le 1er, c'est avant tout une journée de solidarité.
C'est arrivé que vous défiliez ensemble.
Bien sûr, c'est arrivé, comme régulièrement, ça n'arrive pas. Le 1er mai, c'est avant tout une journée de solidarité avec l'ensemble des travailleurs du monde entier.
Bruno Cotterêts, expliquez-moi pourquoi tous ces mouvements, pourquoi tous ces partis de gauche, tous ces syndicats n'arrivent pas à se mettre tous ensemble.
Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà un contexte qui va être de difficulté pour quand même l'ensemble des forces de l'opposition. Aujourd'hui, toutes tendances confondues, Emmanuel Macron a été élu il y a tout juste un an. Il vient de faire 20% de son mandat. Il a encore 4 ans devant lui. Il a un agenda de réforme auquel il se tient pour le moment. Le contexte de son élection a perturbé profondément le jeu politique français, les forces politiques françaises. Donc déjà, il y a un contexte pour tout le monde qui est un contexte de reconstruction où tous les acteurs un peu se cherchent comment s'opposer à Emmanuel Macron. Et on est à un moment donné, qui est plutôt un moment donné en ce moment, on va dire, de tâtonnement des différents acteurs. Il y a un contexte particulier à la gauche ensuite. La gauche,
c'est symbolique de l'état de la gauche.
La gauche, ça ne date pas de ce 1er mai qu'elle est divisée. Elle a des divisions qui sont fortes sur les questions économiques depuis de nombreuses années. Je dirais qu'en même temps, on a quelque chose aussi qui se passe depuis quelques semaines. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Tout se passe comme si, au fond, Emmanuel Macron avait gagné un peu des parts de marché plutôt du centre droit et puis qu'il commençait à perdre du côté gauche.
Et la question de Olivier Drahi, l'immigration à droite.
À droite aussi, il y a des divisions, mais la question de fond qui va se poser à la gauche très, très rapidement, quel que soit le leader qui va incarner, quelle que soit la force politique qui va être en tête pour incarner ça, c'est sur quel agenda la gauche peut se reconstruire comme force d'opposition à Emmanuel Macron. C'est une question qui est très importante, c'est une question qui va nécessiter du temps. Benoît Hamon, tout à l'heure, a fait une déclaration où il disait ben, « ça va pas être pour tout de suite, il va falloir du temps » parce qu'effectivement, la gauche était au pouvoir, au fond, il y a encore un an et quelques. Donc il y a une question de temps, mais on voit que quelque chose n'est plus exactement quand même la même chose qu'au moment des ordonnances sur le code du travail. Il y a des mouvements d'opinion qui sont en train de se passer. Tout n'est pas complètement figé aujourd'hui.
Le débat se poursuit dans Tout est politique, 21h40. D'abord l'info, Marie Roarch.
Ces faits sont condamnables et seront condamnés. Réaction ferme de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ce soir, après les violences qui ont émaillé le défilé parisien du 1er mai. Un défilé syndical totalement phagocyté par des black blocs, des individus vêtus de noir, visages dissimulés, qui ont détruit des abribus, incendiés, des véhicules saccagés, un fast-food. 200 personnes ont été interpellées. Mais partout en France, plus de 200 cortèges du 1er mai ont bien eu lieu aujourd'hui à l'appel de la CGT. Ils ont réuni 143 500 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. 210 000 selon la CGT. Le silence et les larmes cet après-midi à Vambrechy dans le Nord où plus de 3000 personnes ont participé à la marche blanche à la mémoire d'Angélique, cette adolescente de 13 ans tuée par un ancien voisin. Et on apprend ce soir que la famille de ce quadragénaire est victime d'insultes et de menaces. Sa maison a été vandalisée. Une plainte a été déposée. L'Arménie s'enfonce un peu plus dans la crise politique. Nicole Pachignan appelle ce soir les dizaines de milliers de partisans réunis à Erevan, la capitale, à la grève et à la désobéissance civile. Le leader de l'opposition a échoué à se faire élire Premier ministre par intérim. Sa candidature a été bloquée par le parti au pouvoir lors d'un vote au Parlement. C'est la mi-temps à Madrid, demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Real de Zinedine Zidane et le Bayern Munich. Les Madrilènes veulent disputer une troisième finale consécutive. Un partout pour l'instant. Les Espagnols s'étaient imposés 2-1 à l'aller en Allemagne.
France Info.
21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
Et le débat se poursuit sur le plateau du studio 221 de la maison de Radio France. Jordan Bardella, vous venez d'entendre ce que disait Bruno Cotterêts. Ce 1er mai, dévoyé par les Black Blocs, c'est un mauvais coup pour la contestation sociale ?
Écoutez, je ne crois pas que les syndicats soient les porteurs de cette contestation sociale. Je crois me souvenir qu'ils ont tous, en grande partie, appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Je crois qu'elle se joue surtout dans le débat public. Ça fait longtemps, vous savez, que les ouvriers votent plus pour le Parti communiste mais pour le Front national depuis un certain nombre d'années, parce que je crois qu'ils constatent simplement la cohérence politique de notre discours, la cohérence face à l'ouverture totale des frontières, face à la mondialisation sauvage.
Notre compte, vous avez fini
les tartes à la crème, si on peut avoir quelque chose de plus sérieux.
Vous êtes abstenu sur la directive des travailleurs détachés.
Alors la réponse est d'Olivier d'Artigolle et de Mathilde Panot.
Donc, en ce 1er mai, nous étions à Nice pour un grand rassemblement avec nos partenaires
européens.
Au milieu
des forces populaires à Nice. Soyez pas méprisants
avec les Français, je sais que vous avez l'habitude à gauche. Et je pense que vous avez peut-être
mauvaise souffrance.
Vous avez peut-être permettez-moi mauvaise que le Parti communiste pèse à peine 5% aujourd'hui, que les ouvriers votent pour nous aujourd'hui.
Je me permets d'interrompre parce qu'on va parler.
Si je peux juste terminer ma phrase, nous étions à Nice
pour parler de ce qui s'est passé à Nice.
Nous étions à Nice pour un grand rassemblement avec nos alliés européens. Dans un an, vont se tenir les élections européennes. Et en réalité, effectivement, beaucoup des mesures qui pèsent sur le pouvoir d'achat, sur le droit des travailleurs, se jouent aujourd'hui à l'Union européenne. C'était vrai, par exemple, pour la SNCF, où l'Union européenne impose depuis un certain nombre d'années la privatisation du service public et l'ouverture à la concurrence. Donc, nous voulons élever le débat au niveau européen. Mais voilà, je sais que ça vous gêne. Effectivement, nous sommes le premier parti ouvrier de France. Et je sais que ça vous dérange.
Très vite, ce qui est gênant, par exemple, c'est que Marine Le Pen fustige le fait qu'il y ait des travailleurs détachés, mais par exemple, quand il y a une vote sur une directive au Parlement européen, s'abstient.
On ne vote pas pour du vent, madame.
Nous sommes favorables
à l'abrogation de la directive détachement des travailleurs, pas à son ripollinage.
Je me tourne vers Florence Berthoud. Ce qui s'est passé cet après-midi, ça peut avoir des conséquences pour la contestation sociale que l'on sent aujourd'hui dans ce pays ?
Bien sûr, mais surtout, ça acte d'une certaine manière quoi ? Ça acte la perte de vitesse assez inexorable ces dernières années du mouvement syndical. Moi, je ne m'en félicite pas, car que la contestation puisse aussi être portée, organisée par des syndicats, c'est aussi une forme d'organisation de la démocratie. Et parallèlement, je ne partage pas du tout votre analyse, parallèlement à l'effritement syndical, au fait que l'élection d'Emmanuel Macron a mis à mal la sacro au sein de bipolarisation de la vie politique qui avait organisé toute la Ve République, on assiste effectivement à une difficulté de porter la contestation et la contradiction. Et ceux qui n'ont pas défilé cet après-midi, c'est aussi, c'est vrai, cette France déshéritée, des retraités, qui étaient peu dans la manifestation, d'après ce qu'on m'a dit, les retraités. C'est vrai qu'il y a le personnel des EHPAD.
Celle qui vote Front National, dirait Jean Lambert.
Je ne vois pas pourquoi elle voterait plus Front National. Et puis, il ne faut pas injurier comme ça des classes. C'est vrai que les retraités, avec les attaques contre la CSG, sont mises à mal. Le personnel des EHPAD qui est peu suivi, peu accompagné, le personnel qui diminue dans les hôpitaux. Donc ça, ce sont des vrais sujets à porter.
Allez, j'aimerais que l'on évoque maintenant l'autre défilé du 1er mai, parce que depuis maintenant 30 ans, le Front National défile également le jour de la fête du travail. C'est un défilé qui a été effectivement institué par Jean-Marie Le Pen en 1988, en l'honneur de Jeanne d'Arc. Alors traditionnellement, c'était place des Pyramides à Paris, sous la statue de celle qui délivra Orléans. Cette année, Marine Le Pen a donc décidé de délocaliser cet hommage à Cannes, une nouvelle façon de se démarquer de son père. Bah, écoutez d'ailleurs ce qu'en pense Jean-Marie Le Pen.
Je suis fidèle à la tradition et à moi-même. Je regrette simplement qu'il n'y ait plus le grand défilé populaire qu'il y avait chaque année et que le Front National a supprimé pour des raisons que je conteste évidemment.
Jordan Bardella, vous êtes donc porte-parole du Front National. Honnêtement, la guerre entre Jean-Marie et Marine Le Pen, ça vous amuse ?
Oh bah ça, faut demander ça aux journalistes. Ah non, vous qui en parlez. Bah, ah non, mais c'est plutôt à moi de vous poser la question, parce que c'est vous qui en parlez régulièrement. Enfin, bah, je veux dire, le cas Jean-Marie Le Pen a été traité par le Front National il y a maintenant plus de 2 ans. Donc je veux dire, à un moment donné, soit on avance, soit on regarde vers l'avant, soit on regarde en arrière. Et moi, ce que je regarde, c'est que Marine Le Pen a réuni 11 millions de voix au soir du second tour de l'élection présidentielle, qu'elle a organisé aujourd'hui un grand rassemblement avec nos alliés européens, parce que vous savez que le courant...
Alors à Cannes, il n'y avait pas énormément de monde. Hein.
Non, mais à Cannes, c'était un hommage à un dépôt d'armes, un hommage à Jeanne d'Arc, que nous saluons tous les ans.
Mais et pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait à Paris, d'habitude, avec son papa?
À Nice, je vais quand même aller au bout, je vais pas tomber dans la parodie, je vais quand même aller au bout. À Nice, nous avons organisé un rassemblement avec nos partenaires européens parce que nous avons une réelle chance de devenir majoritaires, enfin les souverainistes, les patriotes que nous représentons, les nationaux, on les appellera comme on le souhaite, ont une réelle chance de devenir majoritaires au Parlement européen l'an prochain, et ça je crois que c'est quelque chose qui peut changer la donne dans la construction européenne. Nous avons une chance de réorienter la construction européenne en ayant plus de souveraineté, plus de frontières nationales, plus de protection sur les entreprises, moins de dérégulation. Je vous rappellerai quand même que nous sommes arrivés en tête lors des dernières élections européennes en 2014, sur un message très clair, non à Bruxelles, oui à la France, et nous comptons bien rallier à nous l'ensemble des Français qui s'opposent à cette construction européenne et qui souhaite en réalité moins d'Europe et plus de France.
Olivier, vos alliés sur le plan européen, c'est l'arrière-cuisine de
tout ce que l'extrême droite.
Alors je sais, vous avez un problème avec la. Je vous ai pas interrompu. J'ai
alors,
écouté
allez-y, je vous en prie. Allez-y.
Donc merci. On voit bien vos votes. Oui, bien sûr. Mais donc je veux donc dire que ces alliés européens, il faut les qualifier. Ils sont parfois arrivés au pouvoir, c'est vrai, en Hongrie. On voit la manière dont les choses se passent en termes de liberté publique. Et donc, c'est l'arrière-cuisine de toute l'extrême droite qui, dans ce vieux continent, la bête immonde est toujours féconde, tente à partir de la crise économique, de la crise sociale, de la crise morale, d'emporter le match. Bon, voilà, je pense qu'il y a toujours dans notre pays... des ressources populaires et citoyennes pour vous barrer chaque fois que cela est nécessaire l'exercice du pouvoir, parce que nous savons dans les municipalités que vous avez tenues, vous dégagez le Secours populaire, vous faites en sorte que les gamins des familles populaires ne puissent plus aller à la cantine s'ils ne peuvent plus payer, etc. On connaît la nature des politiques que vous menez, mais peut-être que Marine Le Pen n'y était pas, parce que ce qui reste de Jeanne d'Arc à Paris, c'est l'appel tonitruant de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Jeanne au secours.
Mathilde Panot, pardon de cette question, mais Jeanne d'Arc, c'est le symbole de quelque chose pour vous?
Moi, je viens de Saint-Privé-Saint-Mesmes, donc à côté d'Orléans. Donc, c'est des choses qui ont un peu marqué mon enfance.
Vous avez été libéré par Jeanne d'Arc, quoi.
Alors, pas moi particulièrement,
On a compris que vous étiez jeune et donc vous n'avez pas connu personnellement Jeanne d'Arc.
C'est un symbole qui s'est fait complètement phagocyter par l'extrême droite, mais qui. Comment?
Oui, je dis totalement instrumentalisé. Oui, Jeanne d'Arc n'est pas la propriété.
Mais qui
de
n'est pas. Enfin, il existe d'autres représentations de Jeanne d'Arc et historiquement d'autres interprétations de Jeanne d'Arc que l'interprétation qu'en fait régulièrement le Front National et qu'il instrumentalise comme il peut. Et quand même, il faut regarder quand même qui était là lors de ce rassemblement qu'il y avait aujourd'hui. Enfin, il y a quand même des gens qui, notamment, ont dit qu'Hitler n'était pas au courant qu'il y avait une extermination des Juifs.
Exact.
Enfin, c'est
C'est faux.
J'ai les déclarations.
C'est faux. Qui, madame? Alors, allez-y, allez au bout.
Je vous tiens parce que on va aller au bout dans deux petites minutes, parce qu'on va parler justement de ce qui s'est passé à Nice. Il est 21h50. Marie Roarch nous est revenu pour l'info. Ma chère Marie, c'est à vous.
Des violences, des dégâts, un cortège stoppé puis détourné de son parcours initial. Le 1er mai a dérapé aujourd'hui à Paris. Un défilé dont le message syndical en ce jour des droits des travailleurs a été brouillé par l'intervention d'un millier de Black Blocs. Ces individus vêtus de noir et cagoulés qui sont allés à l'affrontement avec les forces de l'ordre. 200 personnes ont été interpellées. Des violences unanimement condamnées par Emmanuel Macron, par le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ou encore par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui dénonce toutefois des choses scandaleuses dans la gestion de ces débordements par les autorités et notamment les manifestants bloqués sur le pont d'Austerlitz pris dans les fumigènes des CRS et sous la menace d'un éventuel mouvement de foule. Une banderole pour Angélique et derrière elle plus de 3000 personnes, certaines vêtues de blanc, d'autres apportant des fleurs pour la marche blanche en mémoire de l'adolescente avant Bruchy. Le cortège s'est arrêté au niveau du square dans lequel la jeune fille a été enlevée mercredi dernier. Un double attentat meurtrier aujourd'hui dans le nord-est du Nigeria. Plus de 60 personnes ont été tuées par deux kamikazes.
gaz dans une mosquée et sur un marché de Moubi, une ville régulièrement visée par le groupe djihadiste Boko Haram. Alizé Cornet sera fixée sur son sort dans 2 semaines. La niçoise a plaidé son cas à Londres aujourd'hui devant un tribunal de la Fédération internationale de tennis. Alizé Cornet a manqué 3 contrôles antidopage entre 2016 et 2017. Elle risque entre 3 mois et 2 ans de suspension.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Et on parlait de l'hommage à Jeanne d'Arc en ordre dispersé au Front National aujourd'hui. Alors, après la cérémonie officielle qui avait donc lieu à Cannes, Marine Le Pen souhaitait lancer sa campagne pour les européennes à Nice. On l'écoute.
Nous posons la première pierre, en quelque sorte, d'une Europe des nations, une Europe qui respecte la souveraineté des nations, qui respecte la souveraineté des peuples.
Alors, sauf que cette première pierre devait se faire en présence du chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini, et du chef du parti anti-islam néerlandais, Geert Wilders. Les deux hommes ont surtout brillé par leur absence. Ça fait quand même un petit peu désordre, Jordan Bardella.
Bah, ils étaient retenus dans leur pays pour des élections locales. Matteo Salvini, notamment, qui fait une énorme percée lors des dernières élections en Italie, est en négociation pour intégrer le gouvernement et pour diriger le pays. Donc, comme excuse, je veux dire, on repassera. Je veux bien que vous continuez d'insulter systématiquement des millions de Français, des millions d'électeurs européens. Ne vous en déplaise. Le FPÖ autrichien, qui est notre allié au Parlement européen, est au pouvoir puisqu'il est membre du gouvernement de Sébastien Kurz. Matteo Salvini en Italie a remporté les élections italiennes étant en passe de rentrer au gouvernement. Donc, je veux bien que vous continuez d'insulter les électeurs, mais ça ne marche plus aujourd'hui.
Il faut bien vous dire, ne vous en déplaise, le
courant d'idées que je représente...
une politique du désordre.
Arrêtez d'être insultant de manière permanente. Ça ne vous honore pas et ça n'honore pas votre mouvement. Vous ferez mieux de vous préoccuper des militants d'extrême-gauche qui fricotent régulièrement, qu'on a vu à l'œuvre partout dans le pays et qui fricotent régulièrement.
Permettez-moi de poser la question à Bruno Cotterêts. L'union des extrêmes droites européennes, on voit bien que c'est pas encore acquis.
Oui, c'est pas la première fois que Marine Le Pen, d'ailleurs, essaye d'imposer ou de prendre son leadership sur ce courant de pensée, ce courant politique en Europe. Ça n'est pas la première fois, on l'a vu à l'issue des élections européennes. Effectivement, ça a été rappelé, le Front National avait gagné les élections européennes en France de 2014, et Marine Le Pen avait tenté d'obtenir la création d'un groupe au Parlement européen sous son influence. Ce que je constate, c'est que les deux finalistes de la présidentielle de 2017 sont déjà finalement dans le couloir de la course, de la compétition des élections européennes, et les autres forces politiques, elles sont même pas dans les starting blocks. Donc on voit qu'effectivement, du côté de La République En Marche, il y a cette grande marche européenne que le mouvement politique a débuté il y a maintenant 3 semaines ou 4 semaines. Emmanuel Macron pilonne semaine après semaine sur la question de l'Europe. On verra ce que ça donne. Et du côté du Front National,
Marine Le Pen vient de partir.
On voit qu'elle vient de partir. Donc, pour le moment, le débat sur l'Europe, il est polarisé sur pro-européen, anti-Union européenne. Je ne dis pas anti-européen, anti-Union européenne. Et puis, il manque une pièce très importante du puzzle qui va être qu'est-ce que la gauche et la droite ont à dire sur la question.
Je suis totalement d'accord. Et je crois qu'en fait, ces élections européennes, elles vont achever finalement la recomposition de la vie politique française et cette nouvelle bipolarisation entre, d'un côté, ceux qui croient dans cette Union européenne fédérale, en cette société de l'ouverture des frontières. C'est ce qu'incarnera Emmanuel Macron. Et puis, un modèle d'Union européenne basé sur les nations, sur le respect des peuples, des identités. Et je crois que celle-ci sera portée par le Front National et ses alliés à l'occasion des élections européennes.
Je suis assez effondrée de voir comment le Front National, qui est en permanence en train de critiquer la politique politicienne, finalement ne fait que ça. Faute d'une place au soleil en France, Marine Le Pen essaye d'en avoir une et de fédérer des extrêmes au niveau européen, ce que je crois elle n'arrivera pas fort heureusement à faire. Sur quoi s'est construite l'Europe ? Parce que c'est quand même ça, il faut quand même partir de l'histoire. L'Europe s'est construite sur la paix, sur la prospérité. Est-ce que le contrat a été rempli ?
Pas tout à fait, évidemment. Est-ce qu'il faut pour autant jeter d'une manière tout à fait caricaturale le bébé avec l'eau du bain? Non, ça n'est pas l'Europe des nations versus une Europe qui serait une Europe qui mettrait à mal toutes les souverainetés des États-nations. La vérité et le bonheur des peuples, ça se trouve sans doute un peu entre les deux. Donc c'est vrai qu'il faut travailler un peu sur le programme pour arriver à une position d'équilibre.
La vérité, c'est que à chaque fois que les peuples ont été consultés sur la nature, l'orientation de cette politique européenne, ils ont dit sous différentes manières qu'ils n'en voulaient plus. On a eu un résultat spectaculaire en 2005, c'est pas si lointain que ça. Après une grande campagne qui a honoré, je pense, la politique, campagne d'éducation populaire y compris, notre peuple a dit non et les politiques qui ont été menées derrière ont continué à s'acharner. Et il y a donc une aspiration très forte dans notre pays et partout ailleurs à une autre politique plus humaine, moins brutale, plus juste socialement, plus démocratique aussi, parce qu'il y a un acharnement à vouloir mener ces politiques-là. Et donc, vous avez raison, il y a besoin, très certainement, pour les forces démocratiques et progressistes dans notre pays, mais aussi à l'échelle européenne, de très vite converger vers une plateforme commune, elle existe peu ou prou, sur des grandes revendications, de grandes solutions pour l'avenir, et pouvoir dans notre pays, c'est en tout cas ce que souhaite le Parti communiste français, pouvoir additionner nos forces pour les listes les plus rassemblées possibles.
Eh bien merci à vous cinq, parce que Tout est politique, c'est terminé pour ce soir, mais l'info continue bien évidemment sur France Info. J'aurai plaisir à vous retrouver dès demain. Passez une excellente soirée.